pour cette semaine juste avant Noël. Et là, on commence, c'est la dernière ligne droite, je crois. On est vraiment, c'est là où il faut terminer certaines choses au travail, si les gens vont partir. Il y a aussi peut-être quelques cadeaux à acheter. On est content que les choses restent ouvertes plus longtemps. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et en plus de cela, comme il fait un peu plus sombre, aussi, ça a un poids sur parfois l'énergie aussi. Et tout ça crée pas mal de stress. On se rappelle qu'en cette période de temps, il est toujours nécessaire de donner un petit coup de fil à ses parents, gens dans la famille qui risquent d'être un peu seuls parce que enfin, c'est terrible. Toutes ces choses peuvent créer une espèce de fardeau sur les épaules des gens pendant cette période. Et en plus de cela, certainement, vous avez vu la commercialisation de Noël. Enfin, j'ai entendu un podcast du GBU, Groupe Biblique Universitaire, et ils ont interviewé les gens. C'est quoi Noël? Et pour les gens, c'est les cadeaux, c'est les lumières. Et en fait, étrangement, il y avait une réponse assez juste à part d'un musulman. Il dit, ben, c'est pas une fête religieuse pour vous? Oui, si, quand même. Et ben, que faire avec tout cela? Ben, justement, je pense qu'il faut revenir au sens. Et merveilleusement, dans notre texte, en Ésaïe, on tombe pile sur un texte qui nous fait rappeler du sens. Justement pour que nous ne cédons pas à ce fardeau ou même cette commercialisation ou des stress, si on peut juste fixer les yeux sur Jésus qui est le centre. Donc ce qu'on va voir en fait, c'est moins sur Bethléem, hein, mais c'est plus sur l'humilité du Sauveur, qui il est. C'est un passage donc qui est avant, donc presque 1000 ans avant la naissance de Christ, où ça a été dit. Mais c'est là où nous voyons que Jésus est décrit comme le serviteur roi. Et je crois que c'est le message dont nous avons besoin d'entendre pour nos jours. On va voir d'abord le serviteur dévoilé. Donc on va voir qui il est. Et son caractère, ses attributs. Et puis, deuxièmement, on verra cette œuvre qu'il est venu faire. D'abord, qui est-il? Il est le serviteur de l'Éternel. Verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. D'abord, peut-être étrangement ou peut-être pas étrangement, hein, figurez-vous, il y a un débat sur l'identité du serviteur. Alors, notamment parmi les gens qui ne sont pas très favorables au Nouveau Testament. Par exemple, dans un des Targum, qui est un commentaire juif, hein, là, on identifie, voici mon serviteur le roi. Alors, que dans la traduction de ce passage en grec, écrit 200 ans avant la naissance de Christ, il dit, voici mon serviteur Israël, auquel je tiens fermement. Alors, toutes ces deux choses-là sont plutôt des commentaires après. Mais la question à se poser, c'est que voulait dire Ésaïe? Ça, c'est intéressant. Parce que, selon 2 Pierre 1, nous savons que les prophètes, ils savaient qu'ils écrivaient sur des choses qui n'arrivaient pas encore. On compare souvent comme quand on voit les montagnes en distance. On peut voir justement qu'il y a des hauts et des bas, mais on n'arrive pas de loin à vraiment cerner les vallées entre les montagnes. Donc tout paraît assez plate à nos yeux. Et c'est justement cela avec la prophétie dans l'Ancien Testament. D'abord, je pense qu'on peut écarter l'idée d'Israël. Pourquoi ? Parce que déjà dans ce verset, il est mon élu, en qui mon âme se complaît. Bon là, oui, ok, pourquoi pas. Mais j'ai mis mon esprit sur lui et il relèvera le droit aux nations. Là, pour amener le droit aux nations, ça dépasse un petit peu ce qu'Israël peut faire encore plus que... Rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand on a étudié sur Israël, lorsque, en 41, verset 8, lorsqu'il a dit « mon serviteur Israël », Israël, il était plutôt faible, n'est-ce pas ? Jacob, le vermisseau, il a dit, il y avait vraiment une description assez, enfin pas défavorable, mais tendre, mais on voyait qu'Israël avait vraiment besoin d'aide. Alors que ici, il y a autre chose. Ce serviteur n'a pas peur. L'Éternel est avec lui. L'Éternel est même sur lui par son esprit. Sa faveur repose sur lui. Il donne une mission royale pour que les nations connaissent Dieu. Déjà, on voit quelque chose qui dépasse cette nation. Donc, il y a pas mal de personnes aujourd'hui, des experts qui proposent Cyrus. Ce roi qui donne le commandement que les Juifs puissent, le peuple juif revienne sur leur terre pour reconstruire leur temple. Mais ça aussi, c'est très problématique. Oui, peut-être il était élu, mais est-ce que l'âme de l'Éternel se complète réellement? Enfin, est-ce qu'il était un homme juste? Est-ce qu'il était vraiment caractérisé par un homme sur qui le Saint-Esprit reste? Il était païen. Il était vraiment païen et donc on a du mal avec cela. Alors, avec tout ça, je tourne sur ce que je pense que nous savons déjà. Calvin a dit, en fait, je trouve ça génial, il dit, en fait, c'est comme abruptement Dieu parle du Christ. Et là, oui, Calvin qui s'appuie sur Matthieu, l'évangile selon Matthieu qui cite ce verset même, je crois qu'il n'y a pas de mystère. Matthieu l'a vu, les pères de l'Église l'ont vu, les réformateurs l'ont vu. Oui, oui, oui. Nous sommes sur un terre solide pour dire que effectivement, il prophétisait des choses qu'il ne connaissait pas encore, sachant que c'était celui qui allait venir, le Messie. Matthieu parle donc de comment Jésus, rempli du Saint-Esprit, guérissait en humilité. C'est Matthieu 12, où justement, il était ce serviteur auprès de son peuple Israël. Je vous rappelle que en Matthieu, l'évangile selon Matthieu, Jésus est présenté comme le roi. Et pas juste le roi, mais le roi choisi de Dieu, qui représente même la nation pour laquelle il donne sa vie. En fait, comparons maintenant le passage en Matthieu, chapitre 3, verset 16. C'est là où Jésus est présenté à la nation lors de son baptême. Regardez les similarités qu'on peut voir. Matthieu 3, verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Rappelons justement notre passage en Ésaïe. Mon élu, en qui mon âme se complaît, j'ai mis mon esprit sur lui. N'est-ce pas ? Eh bien, je reviens en Matthieu. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Encore. Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu, en qui mon âme se complaît. Voyez comment ces deux passages sont similaires pour désigner la même personne, le Messie d'Israël, le roi, le sauveur. Jésus, donc, qui représente la nation, qui est le roi, c'est lui qui donne sa vie. Jésus est aussi... C'est facile à remarquer tous les passages où Jésus il a reçu donc l'Esprit, notamment lorsqu'il est prêché en Actes, on le voit souvent. Mais le savez-vous peut-être qu'en Ésaïe 11, il y a un autre passage qui est aussi très fort, qui décrit le Messie. Et en Ésaïe 11, verset 1, regardons ce qu'on lit. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le rejeton de ses racines fructifiera. » Donc, nous comprenons donc de le père de David, hein, de sa maison, il y a cette image, donc il va sortir une plante, donc une racine, et regarde, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Là encore, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, c'est pourquoi Jésus est celui qui a été le plus rempli de l'Esprit. C'est lui qui règne. C'est lui qui est le serviteur par excellence de l'Éternel. Donc, ça devient très clair dès ce premier verset que c'est effectivement Jésus qui est derrière ce mystère. Et puis, regardez, c'est là où vous allez reconnaître, si vous ne l'avez pas encore, c'est ce passage, parce que c'est là où il est cité en Matthieu. Il est humble et doux. Verset 2 de Ésaïe 42. « Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. » Et ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau broyé. Il n'étendra pas la mèche qui faiblit. Il relevera la droite selon la vérité. Là aussi, ça peut pas être notre roi. Ça peut pas être Cyrus, lui qui, en fait, militaire, s'est affermi. Bien sûr, il a crié dans les rues. Israël aussi, oui, c'est pas la même chose. Il y a aucun autre roi, il y a aucun autre président. Même les saints ne sont pas aussi bons que ça. Non, Jésus est le seul. C'est lui-ci où nous voyons si clairement cette déclaration. Jésus était humble. On se rappelle, il ne cherchait même pas sa propre gloire. Et on peut aussi penser à tous ces passages dans le Nouveau Testament où il s'échappe dans la foule. Il arrive, il guérit quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie. Ou bien il touche les lépreux, des gens qui sont des intouchables. On pense peut-être à cette fille qui avait 12 ans où il l'élève, même si son père était le chef de la synagogue, certainement un des ennemis de Jésus. Il était toujours là, humble, doux. On pense aussi à cette femme qui avait ce flou de sang pendant 12 ans et comment il était si tendre avec elle. Ne serait-ce que Lazare, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a encouragé ses deux sœurs. Qui d'autre, si ce n'est Jésus, qui ne brise pas le roseau, qui n'éteint pas la mèche, qui est toujours brûlant? En plus, cette idée-là de relever le droit selon la vérité, c'est très intéressant ça. En fait, le mot pour le droit, c'est mishpat, c'est un mot qui a beaucoup de sens dans le judaïsme. C'est le droit, c'est la loi, c'est le commandement, c'est la vie droit selon la loi. Donc, C'est un peu, c'est un mot rempli de beaucoup de sens, un peu comme shalom. Hein? Donc, pour dire que ce Messie va, ce roi va faire en sorte que les nations entrent dans ce mishpat, dans cet endroit. C'est énorme, cela. Et là, je pense à Hébreux, chapitre 3, verset 3, lorsque l'auteur aux Hébreux est en train de comparer Jésus avec Moïse et bien sûr toute la loi, et il dit ceci: en effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. C'est-à-dire que Jésus, ayant plus de gloire que Moïse, la même gloire qu'un architecte vis-à-vis de la maison qu'il a construite, Jésus, donc l'architecte, Jésus est celui donc qui a donné la loi. Ou, comme on lit aussi en Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, il n'y a que Jésus qui puisse faire une telle chose, afin que les nations entières puissent connaître la loi. Justement, Ésaïe va plus loin, il dit que c'est lui le serviteur qui va ramener les nations à Dieu. Verset 4. Il ne faiblira pas, ni ne s'esquivera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre. Et que les îles s'attendent à sa loi. Bon, pour les îles, ce qu'il faut comprendre dans le judaïsme, ça veut dire donc tous ces nations là-bas. Donc, tous ces gens en dehors de nos bords, de nos frontières, donc ces gens-là. Ou bien, dans la terminologie de Jésus lui-même, en Actes chapitre 1, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est fort. Enfin, Dieu a envoyé Jésus comme cette expiation. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est venu comme le sacrifice nécessaire pour enlever notre péché. Dans les paroles de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En fait, en Jean, chapitre 2, verset 2, nous lisons, « Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et là, nous voyons aussi que le cercle devient encore plus large. Ce n'est pas juste une histoire seulement sur Israël, ni une histoire seulement sur l'époque de Cyrus. Là, ça me touche. Jésus a établi la justice parce que c'est lui le seul qui accomplit toute justice par sa vie parfaite. On se rappelle de cette chanson? C'est lui qui n'a pas connu de péché et devenu péché. Cité de 2 Corinthiens 5. Oui, il n'a pas connu de péché pour qu'il devienne péché pour nous qui sommes les pécheurs. Parce que Jésus, parfaitement homme, il est ce que l'Écriture appelle le dernier Adam. C'est-à-dire, depuis Adam, nous avons continué dans cette nature pécheresse. Lui, il est né, en fait, il est conçu par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en lui. En fait, c'est Dieu qui prend sur lui-même la nature humaine. Comme il est dit en Romains 5, 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir, c'est Christ. » Adam, c'est juste, il est comme une figure de celui qui devait venir, Christ. Christ qui vient comme, parce qu'il est le dernier Adam, l'homme parfait, parfaitement homme, hein, comme nous, D'ailleurs, c'est ça la confusion avec ceux qui ne veulent pas accepter Christ, parce que lorsque Ésaïe parle de lui, il est clair qu'il ne parle pas d'une âge spécial, un fantôme, un esprit, il est clair qu'il parle d'un homme réellement. Pourtant, il est bien plus. Il est Dieu aussi. D'ailleurs, c'est Jésus qui envoie ses disciples à évangéliser les nations, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est lui qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Et ça, on revient à notre verset 14. Il ne faiblira ni s'esquivera jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur la terre et que les îles s'attendent sur la loi. Jésus qui dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Ou bien, encore, il est fort, ils attendent à sa loi, le mot est Torah, donc la Torah, la loi. Étrangement, dans cette traduction, le Septante, en grec, au lieu de Torah, au lieu de la loi, il lit plutôt « et jusqu'à ce que les îles s'attendent à son nom ». Et là aussi, en revenant à Matthieu, en revenant à cette commission, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous voyons comment Jésus, il remplit toutes choses, il accomplit toutes choses, il est avant toutes choses. Et aussi, ce n'est pas juste pour le temps où Jésus est venu sur terre. Ce n'est pas juste pour ce temps que nous vivons aujourd'hui. Pour que Jésus établisse le droit sur toute la terre et que toutes les îles s'attendent à sa loi, il faut un changement radical de ce monde, tel que le Sauveur qui revient et qui rétablit toutes choses. Et c'est pourquoi nous voyons ce parallèle avec Ésaïe, chapitre 2, verset 2. Ésaïe 2, verset 2, il dit, « Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Là, on touche à des choses que seulement Jésus peut accomplir. Des choses qui sont même pour la fin des temps. Évidemment, pour moi au moins, c'est Jésus et Jésus seul qui peut remplir cela. Donc, en voyant qui il est, maintenant, le prophète passe à ce qu'il va accomplir. Et en bref, c'est deux choses. Et les deux choses, c'est il vient pour accomplir, conclure une alliance. Et puis deuxièmement, pour libérer les captifs. D'abord, conclure une alliance, verset 6. Donc, Ésaïe 42, verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice. Et je te prends par la main, je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être une lumière des nations. » Alors on pense à Jésus qui a dit, « Moi, je suis la lumière du monde. » Mais je vois aussi ce lien avec Dieu qui, bien sûr, il a tout prédit, Jésus qui a accompli. Le Père a appelé Jésus à exercer la justice. Il a envoyé Jésus pour inaugurer la nouvelle alliance. N'est-ce pas ça, ce que nous célébrons lors de la Sainte Cène? Lorsque Jésus, il a pris le pain, il a distribué, et la coupe, lorsqu'il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance conclue en mon sang. Oui, c'est lui qui l'a fait. Donc, comme pour toute alliance, il faut qu'il y ait le versement de sang. C'est comme ça que ça marche à l'époque. Hein. Donc, il y a toujours un sacrifice qui inaugure donc une alliance. Et de cette manière-là, nous comprenons que c'est lui-même qui donne sa vie pour inaugurer cette belle et juste et merveilleuse alliance par laquelle nous avons la vie éternelle, mais aussi par laquelle il libère les captifs. Verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Et là, on a dans un verset pratiquement tout le ministère de Jésus, hein, de façon pratiquement littérale. Hein, lorsque il donne la vision aux gens, lorsque il les libère de les chaînes du diable et de l'aveuglement qu'ils avaient, nous voyons aussi de sens figuratif et littéral comment il marche toujours aujourd'hui lorsqu'il libère les gens justement des chaînes du diable aujourd'hui et de l'aveuglement provoqué par lui lorsqu'ils viennent à lui. Alors ce qui est très intéressant aussi dans ces passages, c'est comment Dieu, il est le garant de tout ce projet. Verset 5, par exemple. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et souffle à ceux qui la parcourent. Donc, il dit en quelque sorte, moi, donc, qui a fait toutes ces choses et donc, qui a créé toutes choses. Donc, il met vraiment son nom, sa réputation derrière. Verset 8, il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Voici que les premiers événements sont accomplis. Et je vous en annonce des nouveaux. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. C'est merveilleux. Dieu se porte garante. Et c'est lui qui accomplit tout cela pour Israël et le monde entier. Pour que nous rendions gloire à Dieu. Pour que lorsque nous adorons Jésus et nous célébrons sa naissance, que ce soit pas la fête de la commercialisation, la fête de l'économie, mais que ce soit la fête du Sauveur qui est né pour nous. Oui, comme Dieu a dit, j'ai annoncé dès le commencement. Par exemple, Genèse 3, verset 15, lorsque l'Évangile est prêché pour la première fois dans la Bible, où il dit « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Dès la sortie du Jardin d'Éden, l'Évangile était déjà annoncé. Jésus est cette descendance, il est l'enfant, l'homme, donc, qui est né de la femme, qui écrase la tête du diable. Quelqu'un veut dire Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Qu'un sauveur viendra. Ce passage nous rappelle le but aussi du fait que si Dieu met sa nom dessus, c'est-à-dire, il prédit les choses et les choses arrivent. Et le but, c'est pour que nous nous glorifions et nous nous émerveillons dans un Dieu si puissant et puis si grand que lorsque nous passons par cette vie, nous savons que nous ne sommes pas toutes seules, mais qu'il nous accompagne jusqu'au bout. C'est Dieu qui l'avait dit. C'est Dieu qui l'avait fait. Aussi dit, aussi fait. Alors, il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Absolument pas. Pourquoi? Qui est digne? La seule qui est digne. Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne cessait de rendre gloire au Père pour nous montrer comment ça se fait. En conclusion, c'est Jésus qui est l'accomplissement. C'est lui qui s'est dépouillé lui-même en devenant comme ce serviteur lors de sa naissance pour faire une nouvelle âme, une alliance qui nous libère de toutes nos captivités, de tous nos péchés, de tous nos aveuglements, de toutes ces chaînes que le diable essaie de nous entraver. Il nous libère même de notre mortalité, dans le sens que, comme il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Et nous serons avec lui, même si nous devons passer par la mort, nous vivrons éternellement. Alors, avec ça en tête, cette semaine, pendant ce temps de Noël, gardez ces choses en tête. Quand vous êtes en magasin et vous entendez la petite chanson de Noël, même si c'est Mariah Carey, All I Want for Christmas, ben non, enfin, tout ce que vous voulez pour Noël. C'est quoi? C'est Jésus. C'est tout ce qu'il a pour nous. Je vous invite à louer le Seigneur. Saisir le véritable sens. Lorsque vous passez par des crèches, même qu'ils soient allumées par des lumières en néon, des trucs absolument aberrants en magasin. Enfin, ne cédez pas à la commercialisation, mais louez le Seigneur, adorez-le. Et pour ces fardeaux et tout cela, je vous invite à, même si peut-être ça ne vaut pas autant dans nos têtes, de les déposer au pied de Jésus, tout comme les mages ont amené leur trésor aussi devant la naissance du Christ. Adorons-le, car il n'a pas changé. Et heureusement, il n'est pas toujours un bébé, n'est-ce pas? Prions. Père, merci pour nous avoir envoyé Jésus. Merci pour notre salut. Merci que nous ne devons pas nous écraser sous le poids de cette saison et ces choses. Et même si parfois on se trébuche, tu es toujours là, tout prêt pour nous relever. Remplis-nous à nouveau de ton Saint-Esprit, Seigneur. Change-nous. Change nos cœurs, nos attitudes, toute notre vie. Purifie-nous. Nous prions et fais en sorte que nous soyons des témoins pour cette année, des témoins de ta gloire, des témoins de qui tu es. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.